Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und Zusammenarbeit mit dem Fonds National de la Recherche.
Alors, en tant que tel, je ne sais pas si c'est l'eau qui est si fascinante ou ce qui s'y trouve à l'intérieur, plutôt. Voilà, je pense que la fascination et la passion est plus sur les organismes qui se trouvent dedans que plus que sur l'eau en elle-même. Personne ne savait, mais en fait, on peut faire beaucoup de choses avec l'eau des toilettes des gens, en fait. On a entendu dans d'autres pays européens la détection de nouveau de poliovirus dans les eaux usées, dans des zones qui étaient définies comme étant free polio. Donc, l'intérêt est toujours là.
Mein Name ist Max und heute geht es um Potti, den Potti? Keine Angst, das macht alles Sinn. Als sehe ich aber mal vielleicht die Vorstellung von unserem Gast von heute. Das ist nämlich Leslie Ogorzali. Und wie hat sich gegeben bei einer Party vorstellen? Das hört ihr heute.
Ich präsente, ich m'appelle Leslie et je suis chercheur. Je suis chercheur en microbiologie, spécialiste des virus. Voilà, donc c'est une microbiologie, on va dire un petit peu spéciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien réellement avec la santé et le clinique, puisqu'on fait de la microbiologie environnementale. Donc en fait, on va chercher des micro-organismes, pour mon cas, des virus, dans l'environnement.
Seitdem ich, wahrscheinlich viel zu jung, Resident Evil gespielt und geguckt habe, gibt bei mir immer unbewusste Alarmglocken an, wenn ich höre, dass Leute hauptberuflich an einem Labor mit Virus arbeiten. Also ja, ich weiß, die Wahrscheinlichkeit von einer Zombie-Apokalypse, die vom Bellwall ausgeht, ist relativ klein, aber war das dann eigentlich die Reaktion auf dem Leslie sein Beruf? Was frohen Leute rundherum hat, wenn sie für dich gehören, das hat in dem Bereich schafft? Haben sie auch so Umbrella-Szenarien wie eine Filme? Oder sie vielleicht ein bisschen mehr, ja, so mal realitätsnah froh?
Non, pas forcément, pas nécessairement. Mais c'est vrai que, voilà, avec la pandémie qu'on vient de traverser, dans laquelle on est toujours, les gens connaissent de plus en plus de choses sur les virus et donc du coup peuvent être éventuellement plus curieux, mais j'ai pas l'impression que ça affole plus que ça les gens quand je dis que je travaille avec les virus.
Ok. Oui, tu as dit tes expertises sont en virologie, biologie moléculaire, sciences environnementales et sciences de l'eau. Comment est-ce que tu as gagné toutes ces expertises? Parce que ça semble que c'est beaucoup. Beaucoup d'expertises pour une personne.
En fait, quelque part, elles sont toutes combinées les unes avec les autres. Puisque donc, du coup, donc, les expertises en virologie, on va dire basiques, qu'est-ce qu'un virus, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est des connaissances basiques de virologie. Moi, j'ai dit qu'on l'utilise dans l'environnement. Donc ici, notamment pour tout ce qui est aspect cycle de l'eau et environnement, on travaille beaucoup en collaboration avec notre équipe de liste d'hydrologues qui nous apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement des systèmes hydrologiques et de l'eau. Donc là, du coup, par échange avec eux, on acquiert également des nouvelles compétences. La biologie moléculaire, maintenant, c'est vraiment l'outil basique, en fait, pour rechercher les micro-organismes, que ce soit des virus ou des bactéries. On peut certes faire des méthodes de culture, on va dire la microbiologie plutôt pasteurienne, mais maintenant, quasiment tout le monde fait de la biologie moléculaire, avec la recherche du génome et les nouveaux outils de séquençage qui se développent. Donc, au fur et à mesure, en fait, on apprend, au fur et à mesure que les technologies se développent, et on apprend à les connaître et à les utiliser et à les implémenter dans nos projets de recherche.
Ok. Mais quel parcours académique as-tu poursuivi? Donc, dès le début jusqu'à ici, qu'est-ce que c'était ton parcours?
Dès le début, depuis la toute petite maternelle. Alors, en fait, moi, j'ai un parcours essentiellement donc de biologie, donc après le baccalauréat, j'ai fait deux années un petit peu particulières qu'on appelle des classes préparatoires en France. Donc, c'est des écoles qui préparent en fait à passer des concours pour les grandes écoles. Initialement, j'aurais aimé être vétérinaire, et donc voilà, donc c'était deux années pour se préparer à passer ce concours. Finalement, après ces deux années-là, je suis retournée dans un cursus un peu plus classique, une université avec des études de biologie, essentiellement focalisée sur la biologie animale, biologie végétale et les aspects écologie également qui y étaient associés. Et pour mon stage, on va dire, maintenant master, ce qui ne s'appelait pas master à l'époque, je suis atterrie dans un labo de microbio, où finalement c'est là que j'ai découvert ce qu'était la microbiologie plus que durant mes études, avec un premier stage de master qui m'a bien plu, qui s'était super bien passé, une rencontre avec le responsable du laboratoire aussi qui s'est très bien passé, qui m'a fait découvrir le monde de la virologie. J'y suis restée pour faire ma thèse, et suite à ma thèse, je suis arrivée au LIST.
Ok.
Voilà.
Et tu as dit que tu voulais être vétérinaire. C'était ta rêve depuis que tu étais un enfant ou
Non, c'était vraiment effectivement ce qu'on pourrait qualifier un rêve d'enfant. Du coup, initialement, j'ai vraiment toujours adoré l'environnement, la nature, particulièrement les animaux. Mm-hmm. Donc c'était un petit peu une volonté par rapport à cette passion quelque part que j'avais quoi. Malheureusement ça s'est pas réalisé, ou heureusement, je sais pas, je suis très bien dans mon métier actuel, donc ça après c'est la vie qui fait que finalement ça s'est pas fait. Mais
et pourquoi ça n'a pas réalisé, cet hasard que tu as commencé dans la microbiologie, ou tu as découvert en fait la microbiologie, donc ça a changé?
Ça a changé, voilà. Après, il y a effectivement eu le fait que j'ai pas réussi à intégrer les écoles vétérinaires en France. Hein. Donc voilà, donc j'ai dû à un moment réfléchir à me réorienter, et à trouver d'autres activités. Mais j'ai toujours voulu clairement faire de la biologie et travailler sur tout ce qui était environnement.
Vanessa Schmott-Leider ist in verschiedenste Berufsgruppen in Erhalt. Von öschet immer am spannendsten, wann sie verroden, wat ihre Beruf dann so exceptionell für sie möcht. Piloten, die von der Freiheit erzählen, wenn sie über die Wolke fliehen. Oder Advokatinnen, die mit funkelnden Ahnen über Paragraphen philosophieren, die als Gesellschaft im Rollen halten. Oder eben Forscher und Forscherinnen wie Leslie, die fasziniert von einer Sache sind, die für andere Menschen zum Alltag gehören. Zum Beispiel, wenn wir duschen gehen oder Sand waschen oder einfach nur, wenn wir duschen tun. Leslie ist nämlich extrem fasziniert vom Wasser. Wobei, nicht ganz.
Alors, en tant que telle, je ne sais pas si c'est l'eau qui est si fascinante ou ce qui s'y trouve à l'intérieur. Plutôt, je pense que la fascination et la passion est plus sur les organismes qui se trouvent dedans que plus que sur l'eau en elle-même. Et puisqu'on peut y trouver des choses tellement diversifiées, en fait, hein, ça change tout le temps. Il y a plein de choses à essayer de découvrir. Et l'eau est quelque part plutôt le lien aussi vers la santé et l'environnement, puisque en fait, c'est un moyen de contamination. De contamination, quelque part, de la population, à travers des activités de baignade, si l'eau n'est pas de bonne qualité, à travers la consommation d'eau potable, si elle est impropre à la consommation ou qu'il y a eu un problème pendant le processus de traitement. Donc, en fait, oui, je dirais que c'est pas l'eau en tant que telle qui est fascinante, c'est plutôt les organismes qui se trouvent dedans.
OK. et pourquoi est-il important de rechercher dans l'eau? Est-ce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans l'eau ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore à découvrir?
Il y a toujours des choses à découvrir. Donc, il y a toujours effectivement des choses à découvrir. Mais ce qu'on a vraiment besoin de comprendre, c'est qu'à travers tout le cycle de l'eau, en fait, c'est vraiment... comment se comportent ces micro-organismes, ces virus pathogènes, en fait. On sait qu'il y en a qui peuvent être tout de suite détruits, inactivés, dès qu'ils se trouvent dans l'environnement. Il y en a d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas. Par exemple, finalement, si on parle des virus que les gens connaissent bien, qui sont très dangereux, si je vous parle du VIH, par exemple, vous le mettez dans l'environnement, il est détruit quasiment instantanément et il n'y a aucun risque par rapport à l'eau, ça ne pose aucun problème par rapport à l'eau. Par contre, les organismes que nous, on recherche, ça va être plutôt des pathogènes liés à des symptômes, par exemple des gastro-entérites, des symptômes plutôt digestifs. Et on sait que ceux-là, par contre, sont très résistants, sont des champions pour rester dans l'environnement. Et donc, ils peuvent se propager d'un endroit à un autre et se retrouver à un endroit où, par exemple, l'eau est utilisée pour la production maraîchère, par exemple, pour produire des légumes, et ça peut être un vecteur et une source de contamination de la population qui peut parfois générer de grosses épidémies.
Mm-hmm. Est-ce que tu fais tes recherches donc, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ou aussi pour trouver une solution? Donc, par exemple, l'eau est polluée, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'eau n'est plus polluée? Ou tu fais tes recherches donc, que tu es chez un lac et tu dis... Ah, ici, c'est un problème parce que ça s'est passé.
En fait, on traite réellement les deux aspects en fait, dans le groupe de recherche ici au LIST. On va avoir un axe de recherche qui va vraiment plus être dédié. Donc, du coup, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là et quel est le risque quand ils sont là, ces micro-organismes. Et un autre axe de recherche, justement, on va plutôt tester des efficacités des traitements de décontamination ou des traitements. Voilà. Donc, il y a plein d'autres départements ici au LIST, mais aussi d'autres personnes extérieures, d'autres entreprises qui vont développer des produits qu'on va dire antimicrobiens, par exemple, ou antiviraux, qui sont là, du coup, pour dégrader et tuer ces organismes. Et on évalue aussi l'efficacité de tous ces traitements.
OK. Et au Luxembourg, quel virus est-ce qu'on peut trouver dans notre eau potable, par exemple?
Alors, normalement, aucun. Aucun. Normalement, voilà, les traitements de potabilisation qui sont mis en place arrêtent les virus et les inactivent. Et normalement, il n'y a pas de, aucun virus pathogène n'est actuellement véhiculé dans l'eau potable.
Et dans les autres eaux ?
Alors, dans les eaux environnementales, type les eaux de rivière, là, effectivement, on peut en trouver. Tout simplement parce qu'en fait, ils sont apportés par les rejets des stations d'épuration. Puisque les stations d'épuration ne sont pas capables d'éliminer, d'inactiver tous les virus. Donc, soit là, on les retrouve dans l'environnement. Et comme je vous le disais avant, ça va plus être des virus du type responsable de gastro-entérite essentiellement.
Grosse und du gekönnest, vielen versprach an Lusimado am Potti. Wobei, nicht unbedingt das, was die auf der Toilette macht, mir echt das, was du nur durch Klären nachläuft. Dann mal rät, ich weiß nicht. Oder Toilette. Ah, genau, das Eau de Toilette ist am Anfang ein ganz wertvolles Hilfsmittel, für zu wissen, wie es euch dann als Kollektiv dann so geht. Und was denn du alles kann rauslesen, das verrät uns natürlich Leslie.
Bah, oui, effectivement, je pense que personne ne savait, mais en fait, on peut faire beaucoup de choses avec l'eau des toilettes des gens, en fait. C'est vraiment utilisé, donc c'est utilisé pour suivre les maladies infectieuses, comme on fait dans le Coronastep, mais ça peut être utilisé pour suivre des résidus de médicaments, pour suivre du coup des contaminations par les hormones, par les drogues, pour savoir quelle est la consommation de drogue, par exemple, dans une population donnée. Donc en fait, c'est applicable à beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines, en fait. Puisque voilà, c'est quelque part un peu le miroir de la société.
Tu as travaillé dans le cadre du projet Coronastep, dans les stations d'épuration pendant la période du Covid. Comment est-ce que tu es arrivé à réaliser ce projet?
Alors, en fait, ce qu'on fait dans le cadre de Coronastep, ça s'appelle de l'épidémiologie basée sur les eaux usées. Et en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Nous, on le faisait déjà précédemment, avant la pandémie, pour d'autres virus, pour d'autres types de virus. Donc, en fait, voilà, les méthodes qu'on a mises en place dans Coronastep, c'est des choses qu'on connaissait déjà. On a dû les adapter à ce nouveau virus, mais en fait, quelque part, on savait déjà le faire, et c'était déjà un petit peu notre quotidien, sauf que les gens ne savaient pas si ça existait.
Ok. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire des thèses, en fait, parce qu'on ne contrôle pas toutes les toilettes de toute personne au Luxembourg. Donc, est-ce que c'est un calcul qu'on fait ou c'est une formule pour dire, ah, maintenant, on a beaucoup plus d'infectionnés du courant?
Donc, on travaille beaucoup en collaboration avec les gens des stations d'épuration, avec les syndicats qui, eux, connaissent très bien leurs stations d'épuration. Donc, ils sont capables de nous informer sur quelle est la zone, le bassin géographique des eaux qui arrivent à la station d'épuration. Donc, on sait combien de personnes, par exemple, sont racontées à la station d'épuration, de quelle zone géographique il vient. Et en traitant toutes ces informations, par exemple, pour le cas du SARS-CoV-2, on sait que, voilà, quand on trouve quelle quantité de virus, on sait qu'il vient de personnes infectées dans une zone donnée.
OK.
Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on fait avec les personnels des stations d'épuration.
OK. Et combien de personnes ont travaillé sur ce projet ou sont en train de travailler sur ce projet
Actuellement, aux listes
Sur le Coronastep.
Sur le Coronastep. Alors, en fait, c'est un projet très, très large. Bon, nous, ici, en interne, on était, on va dire, en moyenne 4 personnes à travailler, du coup, sur le projet. Mais il y a une partie des analyses qui ont été faites dans d'autres centres de recherche, puisqu'on travaille en partenariat avec le LNS, notamment le Laboratoire National de Santé, mais également avec le LIH et le LCSB à l'université. Donc, en fonction des analyses qu'on voulait faire, en fait, c'est vraiment un travail collaboratif entre plusieurs instituts de recherche et également collaboration, comme je le disais avant, avec tous les syndicats des stations d'épuration qui, eux, étaient en charge de nous collecter les échantillons selon un protocole qu'on leur a fourni. Et c'est eux qui font toute étape de collecte et qui nous rapportent les échantillons.
Mit gewinnen Zeit, du warst Leslie an all de Lützeburgische Medien vertreten. Egal an welchen Zeitung sie geguckt hat, wer Radio gelauscht hat, Leslie war überall zu finden.
Die klassischen Routinen, die die List sind dabei einem Jahr benutzt, für Dofwasser aus den Kläranlagen auf den Virus zu testen, gehen nicht durch die Varianten klar zu erkennen, sagt Virologin Leslie Ogorsali.
Die geografische Abteilung von der Viruskonzentration ist an der letzten Moment mehr genau gehen. Das sieht Leslie Ogorsali, Koordinatrice von der Etude, am Interview.
Normal. Corona war auch immerhin das Megathema an der Zeit. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass das nicht mehr so der Fall ist. Und davon ist mich wieder auch den Anteil um Leslie seine Projekte sich geändert hat. Gehört du in Zusammenhang mit dem Medienanteil um Thema Corona oder echt nicht?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a une part de l'intérêt certainement qui a diminué par rapport donc, du coup, au plus gros de la pandémie. Même si aujourd'hui, voilà, des journalistes ou d'autres personnes reviennent encore vers nous par rapport à l'émergence notamment du monkeypox. Donc les gens sont venus nous demander si on travaillait sur ce type de virus. On a entendu dans d'autres pays européens la détection de nouveau de poliovirus dans les eaux usées, dans des zones qui étaient définies comme étant free polio. Donc l'intérêt est toujours là avec l'apparition ou la réapparition d'autres virus.
Donc le polio existe encore en fait.
Alors, il existe encore dans les zones où le virus est endémique. Hein. Il n'a pas été déclaré éradiqué partout dans le monde. Donc, il y a des zones, du coup, dans lesquelles il y a toujours des infections au poliovirus. Dans les zones où il était déclaré absent, difficile à dire s'il l'est ou pas. Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent être à l'origine de ce qui a été trouvé dans les eaux usées, par exemple en Angleterre. Il y a beaucoup de phénomènes migratoires actuellement. Donc, est-ce que ce sont des gens qui viennent des zones où le virus est endémique, qui se sont déplacés ? Enfin, on n'a pas encore les réponses, mais on n'a pas encore les réponses.
Comment est-ce qu'on sait si l'eau qu'on a est normale ou infectée? Comment est-ce que tu le fais pour faire tes preuves?
Au laboratoire.
OK.
Voilà, pas chez moi, à la maison.
OK.
Voilà. Pour savoir comment on fait au laboratoire, on va utiliser des techniques qui nous permettent de mettre en évidence la présence de ces organismes. Alors, soit on va pouvoir utiliser des méthodes de culture. Donc, dans le cas des virus, en fait, on cultive des cellules en laboratoire, sur lequel on va mettre l'échantillon qu'on veut analyser, et on va regarder si les cellules sont infectées ou pas par le virus qu'on recherche.
Ok.
Voilà, ou alors on va utiliser les outils de biologie moléculaire dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on va essayer de chercher spécifiquement leur ADN ou leur ARN, comme preuve de leur présence.
Ok, c'est le RDN et le ARN, c'est quoi ?
L'ADN ou l'ARN, en fait, d'un virus, c'est le support de son information génétique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, du coup, du virus. Mm-hmm. C'est là où sont ses gènes.
Erinnert dir euch eigentlich noch an die Zeit rund um den großen Lockdown? Die Zeit, wo ganz Lützeburg, nee, die ganze Welt ungeduldig war, für zu wissen, was da als nächstes bei uns durchkommt oder vielleicht nicht. Allgemein, mega weird Zeit. Also, wir haben im Fernsehen Leute bei Zoom-Calls nur geguckt, Apps wie Hausparty entdeckt und ein bisschen mehr regelmäßig wie sonst über das Internet mit Kollegen geprost. Wir haben unseren Eltern erklärt, was Zoom ist, und haben gelernt, dass auf TikTok 5 Stunden Content wie 20 Minuten können verfliehen. Und während all das irgendwie nämlich war, wusste keiner wirklich, was lebt, und auch kein, was dann als nächstes wird kommen. Das Einzige, was das alle gut verbunden hat, das war das Klappen im Balkon und natürlich kollektiv gucken von den Livestreams, wenn den Herr Büttel oder Madame Lehner sich zur aktuellen Situation geäußert haben. Das war ja auch die direkte Quelle für uns alle gut. Wobei, an der Quelle, da sitzen andere. Zumindest am Wasser sitzen Leslie und seine Kipp. Und da frage ich mich, wussten Sie eigentlich schon beim Auswerten von den Dateien, was da als nächstes wird geschehen? Oder sitzen Sie wie mir für im Fernsehen, dem Internet oder dem Radio?
Pas du tout. On n'avait pas d'informations avant leur communiqué presse officiel. On n'a jamais été informés de la situation. Eux demandaient que nous, on les informe, comme les ont informés les autres laboratoires sur les différents indicateurs qui suivaient pour gérer la crise. Mais non, on n'a jamais été au courant de rien avant personne.
Okay.
On apprenait les nouvelles dans les communiqués presse officielles, comme okay. Tout le monde.
Mmh. Okay. Et comment tu fais ton home office Est-ce que tu as pris les choses du labo à la maison ou est-ce que tu as pu revenir dans le labo pour faire les expériments et puis pour toutes les données, les courriels et tout cela, tu es revenu à la maison?
En fait, oui, c'est vraiment ça. On va dire la partie au bureau se faisait exclusivement du coup à la maison où le LIS nous a fourni à tous le matériel informatique nécessaire du coup pour qu'on puisse s'installer de manière la plus optimale chez nous pour faire notre travail. Par contre, tout ce qui est non laboratoire, on était sur place. On était autorisé, on avait des dérogations particulières de notre employeur, les attestations et tout ce qu'il fallait pour venir, même quand les confinements étaient complets, on venait exclusivement les jours d'analyse pour faire le travail sur site.
Donc, on vous a donné un badge, si la police vous...
On avait les attestations employeur et les autorisations de sortie et de circulation. Pour ma part, du côté français, puisque je suis résidence française et luxembourgeois, pour pouvoir, du coup, passer les frontières et venir travailler, ouais.
Donc, tout d'abord, de la crise, c'était pas très évident pour aller d'une frontière à l'autre, en fait.
Finalement, c'était plus facile, il y avait beaucoup moins de trafic.
Oui, après...
Komm, ich spiele ein kleines Gedankenexperiment. Dafür muss ich sich nicht anders das machen, wie den Nutzen lauschen, an eine Anzahl zu machen und ihrer Fantasie so ein bisschen freie Lauf zu lassen. Gehen wir davon aus, die hat den perfekten Tag für euch. Das heißt, die steht morgens ab, die macht, was ihr wollt, die ihr selbst zum Mittag macht, was ihr wollt, geht eventuell an den Feierabend, macht, was ihr wollt, und irgendwann geht ihr schlafen und dann geht um alles weiter. Das heißt, 24 Stunden lang könnt ihr einen perfekten Tag leben. Und da frage ich mich, was gebt ihr da machen? Was ich auf alle Fall spannend fand, das haben wir schon ein paar Mal im Podcast gestellt. Und ich und zwei kriegen wir nicht hin, dass eine Forscherin oder ein Forscher sieht, dass es bei einem perfekten Tag nicht geschafft wird.
Une journée de travail ou une journée de week-end?
La journée parfaite.
La journée parfaite.
Ça peut être dans le week-end pour toi. C'est...
Je prends le temps de réfléchir. Alors déjà, je crois qu'elle commencerait par une journée sans réveil, pas de réveil qui sonne, de pouvoir se lever à l'heure qui me plaît, voilà, naturellement. Et elle serait organisée, on va dire, en partie autour de la famille, d'avoir le temps de pouvoir profiter de ma famille et de mes enfants. Et en même temps, très certainement, une partie de travail, avec des bons moments passés aussi avec mes collègues. Voilà, un bon équilibre entre les deux, avoir du temps pour soi et pour la famille. Et puis, une partie de travail avec les collègues avec qui je m'entends bien.
Wie gesagt, ich kann es nur vollziehen, ob einen perfekten Tag gebe ich niemals schaffen. Mir schmengen die Ausstellungen aus dem Grund, dass ich keinen Doktortitel oder ein Erbe schon erforscht habe. Mir waren schon so mal Leslie aufhängen, so Gedankenspieler zu machen, kann ich auch mal etwas mir privat vorstellen. Wie zum Beispiel Hart hat oder Hurt hat vielleicht sogar nach Idola, denen hat nur eifert.
Je crois pas avoir des.
Ou si tu étais petit, est-ce que tu avais des idoles?
Oui, effectivement, peut-être plus jeune, je sais pas, par moment apprécié un chanteur, un acteur ou quelque chose comme ça, mais je sais pas si c'était des idoles, mais.
Qui est ton acteur préféré?
Qui est mon acteur préféré? J'aime bien Jude Law. Je ne sais pas si c'est mon préféré, mais j'aime bien Jude Law.
Ok. Et ton film préféré?
Mon film préféré, ça va être un film avec Jude Law qui s'appelle The Holidays.
This is an exceptionally great tent.
Mm-hmm. It's got something, hasn't it?
It's cozy.
Yeah. Who cut out all these beautiful stars?
We did. The Three Musketeers.
Parlons de films, si tu pouvais louer une salle dans le cinéma pour faire un marathon de films. Donc, tu peux choisir trois films.
Trois films.
Ça ne doit pas être Harry Potter 1, 2, 3, par exemple. Ça peut être trois films quelconques. Quels trois films est-ce que la salle devrait voir?
Alors, c'est tellement celui que je citais en premier, juste avant, The Holidays. Je crois que je mettrai également Roméo et Juliette, la version avec Leonardo DiCaprio. Et en troisième...
Pour pleurer,
oui, peut-être. Alors, il faut que j'en trouve un qui ne fait pas pleurer. Alors. qu'est-ce que je mettrai en troisième? Je ne sais pas. Ah si, alors je suis en train de chercher le titre du film. C'est un film français cette fois-ci qui s'appelle, je crois que c'est le titre du film, Le premier jour du reste de ma vie.
Ok. Et
qui est aussi finalement un peu un film triste.
Et de quoi s'agit ce film?
Alors c'est l'histoire d'une famille où le père de famille donc du coup apprend qu'il est atteint d'un cancer. Mm-hmm. Et donc, à partir de là, il voit sa vie un petit peu différemment. Et donc, voilà, et il prend notamment le temps pour profiter de sa famille et de plein d'autres choses, donc, du coup, avant de les laisser.
OK. OK.
Mais on ne dirait pas comme ça, mais en fait, il y a plein de passages très, très humoristiques et très drôles dans ce film, dans la manière dont le sujet est traité.
On dit « bittersweet ».
Voilà.
Es gibt ein relativ bekanntes Interviewformat auf YouTube, wo die Sängerin Billie Eilish all jüngerem ob in Nights die nämlich vorgestellt kriegt.
I think it's October 18th, 2017.
It's October 18th, 2018.
October 18th, 2019.
October 18th, 2020.
The date is October 18th, 2021.
I'm 15.
I'm 16.
I'm 17.
I'm 18.
I'm 19.
All yours will be nights. Antwortet so ein bisschen verschieden drauf und es gesagt dann einfach, wie hat sich über die Zeit verändert wird. Und das ist auch eine Frage, die mir auch persönlich ab und zu ausstellen. Wie unterschiedst du dich par rapport zu deiner Schulzeit? Oder was hörst du für uns 10 Jahre cool fand und was findest du heute cool? Aber komm, wir drehen das Spiel ein bisschen um. Was du mir als kleiner Kanner cool fand, was mir heute noch immer cool fanden? Boah, Dinosaurier sind bei mir nicht mehr. Aber Fußball fand ich immer relativ cool und ich gucke noch immer gerne viel mehr viel zu lachen. Bei meinem Element geht es aber nicht um mich, mehr immer als erwitten. Dafür gehe ich vor, einfach direkt weiter und Leslie. Was hast du früher cool fand, was du heute noch immer cool findest?
Bah, ich pense ma passion pour la nature et les animaux. Mhm. Et l'environnement, voilà, de manière générale. Ouais.
Est-ce que tu avais un animal préféré?
Un animal préféré, non, mais j'ai toujours été assez fascinée par le monde sous-marin.
Ok.
Voilà.
Encore une fois, l'eau.
Encore une fois, l'eau, effectivement. Une connexion à laquelle je n'avais jamais réfléchi. Et j'ai fait dans le passé, un peu moins aujourd'hui, mais notamment des activités de plongée sous-marine. Et voilà, cette passion pour le monde sous-marin, de manière générale, est restée.
Donc, est-ce que tu penses qu'un jour, un projet sous-marin était intéressant pour toi? Ou est-ce que tu dis que bah, c'est beaucoup trop dangereux, par exemple?
Non, je ne trouve pas ça beaucoup trop un projet sous-marin, c'est-à-dire en travail de recherche ou...
Dans la recherche, oui. Comme dans les films, quand on a un sous-marin, un bateau sous-marin, et on est, je ne sais pas, 1000 mètres sous le sol, par exemple.
Je pense que tout est envisageable. Je pense que, non, et est-ce que ce serait plus dangereux Non, pas forcément, je crois pas.
Ok.
Je suis en train de réfléchir en même temps, mais...
pas le problème. Parce que moi, je voudrais paniquer.
C'est vrai?
Immédiatement, oui, je ne le peux pas. J'ai même parfois dans les ascenseurs, qui ça dure trop longtemps, j'ai la panique.
Ah, la sensation du vide, et comme on dit parfois en plongée, d'avoir le grand bleu sous les pieds, peut paniquer pas mal de monde. C'est vrai que c'est un aperçu, c'est une sensation assez particulière, effectivement.
mais parlant du grand bleu, si tu pourrais aller en vacances, plutôt dans les montagnes ou plutôt à la plage?
À la plage, définitivement. Alors voilà, j'aime bien les montagnes pour les randonnées, ce genre de choses, mais ouais, les vacances, c'est plutôt la mer.
Et tu as une station préférée?
Il y en a certainement plus qu'une, en fait. On va dire que moi, j'aime bien découvrir tous les endroits où je ne suis pas allée, en fait. Voilà, donc je ne vais pas retourner systématiquement à un endroit qui m'a plu, mais j'ai plutôt cherché à découvrir de nouvelles choses, de nouveaux paysages et de nouveaux endroits, oui.
Est-ce que tu informes aussi sur la situation de l'eau là-bas? Si, par exemple, en Thaïlande
Non. Non, en général, j'ai pas de, comment dire, de psychose par rapport à mon travail. voilà, si je vais en vacances, voilà, non, c'est juste pour passer du bon temps. Et c'est vrai que non, je vais pas m'inquiéter plus que ça de la qualité de l'eau si je vais me baigner ou de ce genre de choses.
ou lire des publications sur cette eau, ok.
Non, pas du tout. Je n'ai jamais fait ça.
Leslie ist nicht nur Forscherin, nee, hat halt auch Kur. Und das für einen Studierenden. Und du musst dich immer an die How I Met Your Mother-Szene denken, wo den Ted Mosby auch für dich Kur hält und sich fragt, okay, wie ein Zucht für Prof werde ich gehen?
I still hadn't decided what kind of professor I wanted to be. Authoritative or cool guy. I thought I would decide in the moment. And I did. About 20 times.
Good morning. What's up, dudes? Silence! This is Architecture 101. I am Professor Mosby. But you can call me Ted. Professor Mosby. T-Dog. Do not call me T-Dog.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch wirklich viele Leute im Kopf hier geht, auch wenn nicht unbedingt etwas muss man der Serie zu denen haben. Du findest Lasse gefragt, wie hat er sich dafür berät, ob sein allererste Kur?
Ça fait déjà quelques années. Non, je crois que j'y vais en tout cas d'une manière générale plutôt détendue. Après, la manière dont se déroule le cours, ça va plutôt dépendre aussi de l'interaction avec les étudiants. Il y a parfois des étudiants très intéressés qui vont poser plein de questions où du coup l'échange est super sympa et enrichissant et parfois il y a pas beaucoup de répondants. Ça dépend de l'intérêt des étudiants qui sont là.
Ok. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y a des différences entre, par exemple, les cours français que tu as fait et le cours luxembourgeois, par exemple, ou la manière d'éducation ?
Non, je n'ai pas remarqué de différence particulière, hormis peut-être parfois, les outils qu'on utilise aujourd'hui qui sont un petit peu différents, mais ça, c'est plus, c'est pas dépendant du pays, mais plus dépendant d'évolution des technologies et des outils qu'on a à disposition aujourd'hui.
Et comment est-ce que tu te prépares pour ces cours ?
Comment je me prépare pour ces cours ? On se base beaucoup en tout, on va dire, sur nos activités de recherche. En fait, hein. Finalement, ce qu'on enseigne, c'est quelque part un peu notre métier de tous les jours. Alors, on élargit puisqu'on couvre des choses plus larges que notre seul domaine de recherche. Donc, en fait, on fait du travail bibliographique, on fait des recherches et pour préparer un cours et essayer de leur transmettre le plus d'informations possible.
Pour moi, je dis merci pour ton temps. Et oui, j'espère que tu aimes le podcast d'après.
on verra quand j'aurai écouté la version du podcast. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment en ta compagnie, ça c'est sûr.
Merci beaucoup.
Voilà. Merci.
Und Leslie, vielmals merci für seine Zeit und auch ihr dabei, und dass ihr so lange mal drüber geblieben seid. Wenn euch mein Element gefällt, dann unterstützt den Podcast, indem ihr in 5 Sterne geht, da wo ihr bewerten könnt, oder teilt mit Freunden und Familie. Wir hören uns demnächst drin. Bis dann. Ciao.